Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. La mondialisation a plongé les entreprises dans des guerres, Rwanda, Syrie, Afghanistan, aujourd'hui l'Ukraine, attaquée par la Russie. En réponse à cette agression, un certain nombre de gouvernements occidentaux ont décidé de sanctionner la Russie et la question s'est posée et se pose encore pour les entreprises étrangères, partir de Russie ou bien rester. Depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, les multinationales ont multiplié les annonces. Les premiers à le faire furent les groupes américains, suivis avec une certaine prudence des groupes européens. Selon le domaine, luxe ou alimentaire, les décisions ont été différentes, certains affichant leur volonté de ne pas pénaliser le peuple russe. La concentration et l'intensification de l'attaque russe dans la région du Donbass va peut-être accentuer la pression. Est-ce inévitable que les entreprises se soumettent à l'ordre géopolitique pour cette édition en partenariat avec la revue internationale et stratégique dont le dernier numéro a pour titre « Géopolitique et entreprises, évolution des firmes, évolution du monde ». Nos invités, Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Patrick Dumière, chargé d'enseignement à l'IRIS et président de la commission de normalisation RSE, responsabilité sociale des entreprises, bonjour.
Bonjour.
Et en studio également, Félix Torres, historien, chercheur à Sorbonne Université et directeur fondateur de Public Histoire et auteur de Que peut l'entreprise aux éditions Humensis. Bonjour.
Bonjour.
Les groupes français sont ou étaient plutôt bien installés en Russie avec quelques 700 filiales et 200 000 salariés. Certains ont coupé les ponts. La Société Générale, par exemple, a acté la fin d'une aventure de 15 ans avec la vente de sa participation majoritaire dans Rosbank. Il y a ceux qui ont suspendu leurs activités, ceux qui cherchent à partir, ceux qui restent. Patrick Dumière, est-ce inévitable que les entreprises se soumettent à l'ordre géopolitique ?
Alors, est-ce inévitable ? Je ne sais pas s'il y a un sens de l'histoire qui est en construction dans ce domaine, mais en tout cas, cela correspond à une évolution dans nos pays occidentaux, en tout état de cause, qui, depuis quand même 2-3 décennies, demande aux acteurs économiques d'assumer une responsabilité au regard des questions internationales et des questions de développement durable, comme on le dit. Ce n'est pas un sujet nouveau. Hein. Il a été éminemment traité et engagé avec derrière des conséquences normatives très fortes lors de la question de l'apartheid. Il s'est poursuivi pendant pas mal d'années dans les rapports avec la Russie déjà et aujourd'hui avec la Chine. Mais on a bien deux conceptions qui s'opposent. Si vous voulez, vous avez la conception ultralibérale qui va dire l'entreprise, elle est neutre, elle n'a pas à intervenir dans la sphère politique, elle doit appliquer les réglementations des États. Et donc là, on respecte les embargos si on nous les demande. Ça, c'est la vision libérale extrêmement hypocrite, parce qu'en réalité, l'entreprise refuse d'assumer sa propre responsabilité et se réfugie derrière l'État. Cette conception, elle existe encore aujourd'hui très fortement et elle est professée par beaucoup de grands groupes. Maintenant, elle s'oppose à une nouvelle conception qui a émergé depuis 20-30 ans sous la pression des exigences de responsabilité demandées par les investisseurs, demandées par beaucoup de clients qui ne veulent pas acheter à n'importe qui, n'importe quoi. Et c'est la fameuse jurisprudence Nike. Et puis, elle est demandée évidemment aujourd'hui par les régulateurs qui préféreraient que les entreprises aillent dans cette voie volontaire. Dans cette démarche d'engagement, elles prennent leurs responsabilités. Il y a un enjeu géopolitique qui s'oppose à des valeurs qu'elles professent, et bien elles doivent en tirer les conséquences. Quitte à ce que, évidemment, cela leur coûte de l'argent, parce que, évidemment, si cela ne coûte pas d'argent, il n'y a pas de débat et il n'y a pas de sujet. Bon. Donc, on en est là. Alors, on va en parler, je pense, au long de cette discussion, mais c'est vrai que la question ukrainienne l'a posée brutalement. Et les entreprises considèrent-elles que c'est conforme ou pas conforme à ce qu'elles professent comme vision aujourd'hui de responsabilité que de pouvoir faire, entre guillemets, de l'activité, de l'argent en Russie au risque d'être complice de l'agression contre l'Ukraine. Voilà un peu comment se pose la question aujourd'hui. et l'entreprise ne peut plus répondre que l'État me dit ce que je dois faire. L'État lui-même, du reste, par la voix de nos autorités, a dit que les entreprises prennent leurs responsabilités. Donc on s'est renvoyé la balle. Maintenant, on voit bien qu'il y a des situations de pseudo-boycott ou des situations de la part d'investisseurs qui viennent s'ajouter aux réglementations sur l'embargo, et ces réglementations sur l'embargo, sur les sanctions, celles-là, elles sont d'ordre juridique extrêmement strictes. Et là, du coup, l'entreprise, elle est quand même déjà soumise à une bonne application. Alors, est-ce qu'elle le fait bien? Est-ce qu'elle va au bout de son message? Vous avez vu que certaines l'ont fait et certaines ne l'ont pas fait.
Oui. Alors, je vais proposer à Sylvie Matelli et à Félix Torres de réagir par rapport à ce que vous avez dit, Patrick Dumière. Ce qui a été souligné, c'est cette évolution dans la démarche des entreprises, sous l'effet de quoi? Sous l'effet d'Internet, sous l'effet des réseaux sociaux. Sylvie Matelli, est-ce qu'il y a une spécificité finalement de la situation et du cas de la Russie aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine à travers le prisme des entreprises, dont on peut rappeler, je le disais en introduction, que les Américains avaient été les premiers à réagir?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la confrontation de l'entreprise à la géopolitique et le questionnement sur le rôle et la responsabilité de l'entreprise face à un fait géopolitique n'est pas nouveau. C'est pas une question nouvelle. Simplement, ce qui est nouveau aujourd'hui dans l'équation, et la Russie apporte encore, ou la crise en Ukraine, ou la guerre en Ukraine apporte encore une nouveauté, ce qui est nouveau ces dernières années, comme l'a très bien rappelé Patrick Dumière, c'est le questionnement des sociétés civiles, d'une part, et la montée en puissance de ce questionnement, qui a été renforcé encore parce que vous expliquiez, Marie-France, à l'instant, c'est-à-dire les réseaux sociaux et la diffusion de l'information. On sait tout sur tout, à tout moment, de manière instantanée, et probablement beaucoup plus, et de manière beaucoup plus rapide, et avec beaucoup plus d'emprise, dans les pays occidentaux, les économies les plus développées. Au fond, je vais caricaturer un petit peu, les pays où quasiment tout le monde a un smartphone dans sa poche et instantanément a accès à ce type d'information. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la mondialisation. Il y a toujours eu des entreprises multinationales, et en tout cas particulièrement depuis la révolution industrielle, mais il est vrai que dans un monde devenu global, on a des entreprises qui sont présentes sur une diversité de lieux et de territoires beaucoup plus importante que par le passé. Et donc, de fait, en général, on considère dans l'entreprise qu'en diversifiant ses activités, on diversifie ses risques et on réduit ses risques. Et là, c'est un petit peu l'inverse. C'est qu'on a multiplié les risques potentiels et on se trouve confronté à ça. Alors, la nouveauté, probablement, avec la crise russe et la guerre en Ukraine, c'est qu'au fond, cette crise nous plonge aujourd'hui dans ce que je vais me permettre de qualifier le monde d'après. Je sais que ça a été beaucoup repris et déformé au moment du Covid, c'est-à-dire ce monde qui se formalise depuis quelques années ou qui s'inscrit dans une confrontation, ou dans laquelle on voudrait nous inscrire, une confrontation entre la Chine et les États-Unis, et au fond une confrontation de blocs, avec un bloc de démocratie d'un côté qui porterait de bonnes valeurs et qui défendrait un ordre international, et puis le reste du monde autour de pays dont la gouvernance est plus discutable. Et c'est vrai que dans ce monde-là, et c'est quelque chose qu'a commencé à évoquer Patrick Dumière, eh bien on demande finalement aux entreprises aussi de choisir leur camp. De fait, elles le choisissent quand elles vendent un mode de consommation, un mode de vie, la consommation de masse, le mode de vie, l'American way of life, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, si elles ont choisi cet aspect-là, il faut qu'elles l'assument jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que demandent les consommateurs occidentaux, en assumant les valeurs de ce monde-là, le respect des droits de l'homme, le respect des valeurs démocratiques, etc. etc.
Félix Torres.
Je voulais apporter, je suis d'accord avec ce qu'on vient de dire Patrick Dumière et Sylvie Matelli. Je voudrais ajouter un regard historique un peu à longue portée, quoi. C'est-à-dire, au fond, la géopolitisation des entreprises, ça a toujours été, en fait. Dès l'instant où les entreprises ont quitté leur territoire national, c'est au moment des grandes découvertes, avec le colonialisme en particulier. Elles s'inscrivent dans la politique de puissance des grandes puissances de l'époque, la Grande-Bretagne, la France, ensuite l'Allemagne, l'Espagne, etc. Donc, quelque part, les entreprises, avant, dans la première mondialisation, on va dire, celle qui est clos au 19e siècle, elles sont portées par les canonnières, les bateaux, les outils de conquête de l'Occident dans le monde et leurs nations respectives. On a un changement de paradigme au XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, essentiellement avec la mondialisation. Alors, cette mondialisation, je dirais, elle repose sur deux facteurs. D'une part, il y a quand même une puissance tutélaire qui fixe la règle du jeu, c'est les États-Unis. Mmh. Et depuis 45, les États-Unis ont dit, voilà, libre-échange, pour éviter de revenir aux crises et aux conflits de l'entre-deux-guerres. Des deux guerres mondiales. Et donc, on a vu s'imposer une sorte de globalisation des échanges et des économies jusqu'à aujourd'hui, hein, sous une égide bienveillante, au moins dans le bloc occidental, avant que le bloc communiste disparaisse. Et bon, avec des outils qu'on connaît, le dollar, la banque mondiale et d'autres. Donc, quelque part, on était dedans sans s'en apercevoir, presque. Mais certains pays ont résisté, hein, un peu protectionnistes. Mais quelque part, le libre-échange, avec la baisse des barrières douanières, le GATT, etc., l'OMC, s'est imposé à la planète. La deuxième chose, c'est qu'à partir de 89, cette globalisation qui est antérieure, elle s'accompagne d'une utopie politique, qui est la chute du communisme. C'est ce que Fukuyama a appelé la fin de l'histoire, qui a consisté à dire, au fond, ce monde transparent, cette planète, ce monde plat, comme l'a dit Friedman, il est à la fois plat économiquement, on peut aller partout, on peut acheter partout, et à la fois aussi politiquement, on peut le faire avec tout le monde. Acheter partout, ça veut dire maximiser, je dirais, l'échange comparatif, les avantages comparatifs. Moi, j'appelle la mondialisation le triomphe de Ricardo, hein. C'est-à-dire, faites ou vendez, exportez ce que vous savez faire de mieux. Bon, par exemple, la Russie, elle sait très bien faire, elle ne sait faire que ça d'ailleurs, pratiquement à part quelques industries d'armement, c'est exporter du gaz, des matières premières, du pétrole, etc. Et donc, on va prendre la logique de l'Allemagne. L'Allemagne d'aujourd'hui, elle a dit, ça paraît hallucinant aujourd'hui, hein, le roi est nu, comme dirait Andersen, on va faire le Nord Stream 1, on va faire le Nord Stream 2, parce qu'au fond, on a un fournisseur qui s'appelle la Russie, qui n'est pas très loin. Et nous, on va acheter en toute transparence, on va se fournir en très très grande majorité en gaz russe, dans un monde global sans problème. Or, on est sorti de ce monde globalisé, apolitique si on veut, on a commencé à sortir à partir du 11 septembre, et surtout à partir de, je crois que le virage, le changement de paradigme, c'est 2015 à peu près, c'est le Brexit, l'élection de Trump, la montée des protectionnismes, et bien sûr aujourd'hui les risques politiques. Mmh. Alors, juste un mot sur la Russie. Il n'y a pas que la Russie. Hein. Les craquements ont commencé aussi avec la Chine. Mm. Rappelons-nous le Xinjiang. Mm. Hein. Rappelons-nous l'annexion, enfin, la mainmise sur Hong Kong. Et là, la question s'est posée de dire, attendez, est-ce qu'on est dans ce monde transparent, liquide, sans frontières, ou est-ce que la mondialisation, ce n'est pas autre chose avec du risque géopolitique? Connaissant un petit peu la Chine, il est clair que quand on était en Chine, on est une entreprise étrangère, elle est soumise à des règles chinoises d'implantation, vous pouvez faire ça, vous pouvez ne pas faire ça. Il est clair que c'est pas tout à fait la même transparence ou la même ouverture qu'à l'échelle occidentale. Donc ça a commencé à poser le problème de dire, au fond, est-ce que l'échange peut se déployer de façon équivalente partout dans le monde avec des pays qui ne sont pas des démocraties. Mmh. On pensait que la Chine allait converger vers l'Occident. On sait que ce n'est plus le cas depuis l'avènement du président Xi Jinping. Donc je dirais, ce qui arrive en Ukraine aujourd'hui, la guerre en Russie en Ukraine et la brusque, violente géopolisation des entreprises, c'est au fond la conséquence d'un mouvement plus large, un retour à des fondamentaux qui posent, on y reviendra, de nombreuses questions pour les entreprises, comment évoluer dans cette nouvelle mondialisation que moi je qualifierais d'épaisse, de visqueuse. Hein. Elle est plus liquide, elle est plus gazeuse comme elle était auparavant. Elle est devenue. Elle colle au semelle. Voilà. Mmh. Elle colle au semelle. Bah, il va falloir bien vivre dans un monde qui colle au semelle. Voilà.
Alors, on en reparlera, hein, de cette question, comment évoluer dans cette nouvelle mondialisation. Je reviens vers vous, Patrick Dumière. C'est peut-être important, parce que c'est un peu le point de départ de cette émission, d'en revenir à la question de la Russie. Bon, il y a eu beaucoup d'annonces de départ qui sont souvent aussi. Des coups de communication, hein. Y a un peu de poids de mesure, on dit qu'on part, et puis, mais parce que finalement, évidemment, on ne quitte pas un pays comme on coupe le robinet d'eau, Patrick Dumière, c'est compliqué, et en plus, les Russes ont des moyens de pression pour éviter que les entreprises ne s'en aillent, et la question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est que finalement, est-ce qu'on ne demande pas aux entreprises de faire quelque chose que des États ont du mal à faire? Je pense que la plus grande des sanctions vis-à-vis de la Russie, ce serait de couper le robinet de gaz et de pétrole. Patrick Dumière.
Oui, vous avez, je pense, résumé les termes des contradictions en cours. Cela dit, les entreprises reposent aujourd'hui sur une sorte de consensus. Alors, sur lequel je vais y venir, parce que la pertinence de leur position peut se juger au regard un peu de cette équation-là que rappelait Sylvie et qui est en train de se préciser. Acte 1, d'abord, les entreprises, elles veulent gagner du temps aujourd'hui. Elles veulent gagner du temps. Le conflit va durer quelques semaines, quelques mois, un peu plus longtemps. Dans les accords qui seront passés, on arrêtera les sanctions, donc tout reviendra comme avant. Bon, donc le jeu consiste aujourd'hui globalement à dire à la société civile, je compatis, je ne suis pas d'accord avec la Russie. Du reste, le communiqué de Total était sans ambiguïté de ce point de vue-là. Il était très clair. Total a dit, je condamne très fortement ce qui se passe. Mais voilà, je suis là et je suis encore un peu là. Bon. Donc, position très opportuniste au départ. Maintenant, les entreprises sont coincées. Elles sont coincées par cette fameuse équation qu'on pourrait appeler un peu, d'une certaine manière, un peu le consensus qui prolonge le consensus de Washington, c'est-à-dire le consensus accord de Paris, etc. C'est qu'on dit depuis une dizaine d'années aux entreprises, allez-y, le 11, c'est bien sûr le monde occidental, Europe, États-Unis, Japon, etc., mais face aussi un peu à la Chine. On dit, entreprises, développez-vous. Allez-y, devenez des superpuissances économiques. Elles le deviennent. On n'a jamais connu à un niveau dans l'histoire aujourd'hui des acteurs géopolitiques privés de cette taille. Mmh. Bon. Et donc, ceci conduit à une responsabilité de l'autre côté, c'est, mais attention, respecter un certain nombre de choses. Et comme on a bâti le haut, encore une fois, ce sont les Occidentaux, on a bâti un ordre juridique qui colle un peu à ça, maintenant les entreprises sont un peu coincées, car vous allez avoir des procédures judiciaires à l'égard de telle ou telle entreprise où personnes tierces se diront « mais vous avez été complice, vous avez été complice bah, ». De là, comme cela s'est passé dans le cas de la Birmanie, où Total a résisté, jusqu'à un moment où le risque judiciaire était intenable. Et donc, l'entreprise est entraînée dans sa propre position à la fois économique justifiée et contradictoire avec ses convictions affichées. Donc, on a une construction juridique qui est en train de coincer un peu les entreprises occidentales, à les obliger à être réglo avec leurs engagements. Et en même temps, c'est la condition pour elles de pouvoir poursuivre leur expansion et leur développement demain. Parce que, vous l'avez vu, les banques sont pressées par tout un ensemble d'acteurs pour dire bah, « vous n'allez plus chez Total ». Si Total continue comme ça, alors c'est vrai sur les grands sujets du climat, mais c'est vrai aussi sur ces sujets géopolitiques. Hein. Ils sont là. Hein. Total a été obligé d'arrêter un très grand nombre de projets ces dernières années sous cette double pression du risque judiciaire et de la demande des grands investisseurs. On regarde ça, voilà. Donc, on est rentré dans cette nouvelle configuration où l'entreprise est admise comme un acteur géopolitique auquel on va donner énormément de facilité de gagner de l'argent et de se développer et de s'imposer comme leader. Pour l'instant, nous, c'est notre doxa, c'est ce qui fait qu'on ne limite pas aujourd'hui les parts de marché des entreprises. Hein. On veut avoir des géants. Et de l'autre côté, on leur demande d'être en ligne avec nos valeurs pour ce qu'elles sont et comme elles sont. Voilà. Donc ça, c'est le chef d'entreprise, le dirigeant, le conseil d'administration n'a pas très envie, mais doit s'en sortir avec ça. Il doit régler ces questions-là. Alors, il la règle en Russie de manière un peu opportuniste aujourd'hui, mais ça tiendra ce que ça tiendra.
Alors, pas le temps de vous relancer, Sylvie Matelli, sur une autre question. J'ai juste précisé que, comme Patrick Dumière l'évoquait, Total Énergie conservait ses actifs en Russie. Le groupe a rapatrié ses salariés français et étrangers. Et c'est vrai qu'il est très enraciné dans le pays depuis fort longtemps. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Félix Torres, Sylvie Matelli et Patrick Dumière après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Pour cette édition en partenariat avec la Revue internationale et stratégique, dont le dernier numéro a pour titre « Géopolitique et entreprises, évolution des firmes, évolution du monde », nous parlons bien sûr de la question des entreprises dans la guerre en Ukraine. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Patrick Dumière, chargé d'enseignement à l'IRIS et président de la commission de normalisation RSE, c'est-à-dire responsabilité sociale des entreprises. En studio, Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, et Félix Torres, historien, chercheur à Sorbonne Université et directeur fondateur de Public Histoire et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de Que peut l'entreprise aux éditions Humensis. Sylvie Matelli, on évoquait bien sûr la question du départ des entreprises étrangères de Russie, des départs qui parfois sont des coups de communication. Quel regard portez-vous sur la tendance générale et quelle photographie peut-on avoir à ce jour en termes de connaissances des départs et de voilà, la situation des entreprises étrangères en Russie, dont je rappelais en introduction que les Américains avaient été les premiers à réagir, qu'il y avait eu plus de prudence du côté des Européens. Et de toute façon, on ne quitte pas un pays du jour au lendemain.
Oui, tout à fait. Ce qui est assez intéressant dans ce qui se passe en Russie, c'est que c'est la première fois probablement qu'un si grand nombre d'entreprises issues d'autant de pays sont questionnées sur rester ou partir dans un pays qui est fauteur de troubles et qui est fauteur de guerre, mais sur le territoire duquel il n'y a pas conflit, il n'y a pas guerre en tant que telle. Donc ça, c'est intéressant parce que ce qu'on constate, c'est qu'au fond, il n'y a pas de bonne attitude en tant que telle ou il n'y a pas d'attitude standardisée, si vous me permettez l'expression, qui a différentes situations avec des entreprises qui font une analyse très différente et en fait où la décision se résume le plus souvent au moment de l'événement à se questionner sur est-ce que j'ai plus à perdre en termes de business, en termes d'affaires sur place et de pertes financières sur place ou en termes de réputation. Et en fonction d'où je mets le curseur, je pars ou je reste. C'est quand même un petit peu étonnant qu'on en soit encore là. Alors ça traduit différentes choses et ça explique aussi pourquoi on s'est questionné dans le cadre de ce dossier de la revue, c'est que au fond, on a rarement, jusqu'à très récemment, questionné le rôle et la responsabilité des entreprises face aux conflits. Jusque-là, elles étaient là pour faire des affaires, et au fond, on était dans une logique d'impunité où on se rendait pas compte que dans le cadre d'un conflit, une entreprise peut être un acteur du conflit, voire un acteur belliqueux, financer la guerre, participer au financement de la guerre, voire participer à l'économie de guerre, c'est-à-dire à tout ce système qui se met en place au moment d'un conflit et qui va permettre aux belligérants de continuer le conflit. Donc, fauteur de guerre également. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est très peu posé jusqu'à récemment. Je crois que les premières fois où les questions ont été posées, c'était peut-être avec la Farge en Syrie, a été posée de manière aussi crue.
Le cimentier français.
Tout à fait. Ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est qu'au fond, l'entreprise a été attaquée en justice et quelque part, ce qu'on a constaté, c'est la démission ou l'absence de règles qui permettaient de donner un cadre clair aux entreprises pour déterminer dans quel contexte on reste ou on part. Au fond, c'est ce qu'on disait au tout début de notre propos, c'est que les États n'ont pas mis en place ce cadre réglementaire et se défaussent sur les entreprises de toute responsabilité. C'est aux entreprises de prendre leurs responsabilités. C'est ce qui est dit également dans cette crise ukrainienne. Non, nous, on n'intervient pas, c'est aux entreprises de prendre leurs responsabilités. C'est un petit peu léger de la part des États. Et au fond, les entreprises s'en sont longtemps accommodées en se disant « pas de règles, pas d'obligations, on fait un petit peu ce qu'on veut et notre responsabilité, c'est de faire des affaires, donc on reste. » Et puis, jusqu'au moment où elles ont été attaquées en justice par des ONG, par des sociétés civiles, où elles ont été condamnées, au-delà de l'attaque en justice, elles ont été condamnées. On l'a vu sur les questions de la corruption, en réalité. Et c'est quand l'entreprise est condamnée lourdement, aux États-Unis ou ailleurs, d'ailleurs en Europe, que le régulateur se dit « Oula, là, il y a un risque vraiment pour l'entreprise, il y a un risque de condamnation par d'autres pays, ce qui n'est pas acceptable de notre part, et donc on va réguler, on va mettre en place des lois. » Dans le cas de la corruption, ça a été en France la loi Sapin 2, mais on a vu exactement les mêmes mouvements au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs. C'est un petit peu dommage que les États ne sachent pas mieux anticiper. Et puis, côté entreprise, ce qui pose problème, et on en a parlé à plusieurs reprises, c'est qu'elles se sont engagées depuis plusieurs années dans cette démarche RSE de responsabilité sociale de l'entreprise. Et c'est vrai que quand on se dit responsable et quand on on a une politique RSE, bah, faut dépasser la seule communication, faut assumer. Et assumer sur tous les théâtres d'intervention, c'est-à-dire dans tous les pays dans lesquels vous intervenez. Et là, je pense qu'elles n'avaient pas pris conscience que leur démarche RSE aurait autant d'implications et les questionnerait vraiment. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se jouer en Russie et c'est ce à quoi sont confrontées les entreprises. Et au fond, si on veut sortir de cet arbitrage entre réputation et affaires sur place et intérêts financiers sur place, bah peut-être faut-il commencer à anticiper et construire du côté de l'État des réglementations qui soient assez définies. Alors au niveau européen, il y a un certain nombre de textes, dont la directive sur le devoir de vigilance qui commence à arriver et finalement à offrir un cadre plus cohérent aux entreprises. Mais du côté de l'entreprise aussi, se penser dans la durée, se penser dans le temps, se penser dans un environnement politique et géopolitique et avoir des lignes directrices assez claires. Ça peut d'ailleurs être de véritables indicateurs aussi pour la puissance hébergeante en leur disant, ben voilà, s'il y a guerre, nous on s'en va. S'il y a, vous voyez, ça peut aussi participer de l'évolution du monde.
Alors la question, est-ce que les démocraties sont plus vertueuses que les pays autoritaires? En tout cas, en préparant cette émission, j'ai quand même tombé sur une information qui m'a un peu stupéfaite. C'est l'achat par l'Inde de Narendra Modi de pétrole russe avec un rabais de 30%. Et l'Inde qui revend au prix du marché ce pétrole. Voilà, c'est une information que j'avais envie de donner parce qu'on parlait de duplicité, de dualité, mais les États ne sont pas à l'abri de ces choses-là. Alors, on a entendu Félix Torres, depuis le début du conflit, le président ukrainien appeler les entreprises étrangères à quitter la Russie. Est-ce que l'Ukraine a un intérêt à ce que, précisément, des entreprises pour elles-mêmes quittent la Russie?
Je vous apporte une autre information. Auchan est toujours en Russie. Je ne savais pas qu'ils s'étaient installés en Crimée il y a 2 ans. Crimée, c'est une région annexée par la Russie contre tout le droit international. Certains même y avaient voulu y implanter un puits du Foubis. Je crois qu'ils avaient renoncé provisoirement. Mais que Auchan a fermé dès le début du conflit tous ses supermarchés et ses hypermarchés en Ukraine, mettant au chômage ses employés ukrainiens qui ont protesté.
Alors que les entreprises qui quittent la Russie maintiennent le salaire des employés.
Voilà. Il faudrait revenir au fond à l'essentiel. L'entreprise est un acteur autonome et elle a des stratégies autonomes. Il faut se poser la question de ses stratégies aujourd'hui. On est rentré, plutôt que le terme RSE qui me gêne un petit peu, je préférais dire le capitalisme des parties prenantes.
Le capitalisme des
parties prenantes. Mm-hmm. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est depuis 40 ans déjà à peu près, depuis les années 80, on constate qu'il n'y a pas que les actionnaires, les stockholders, il y a aussi les shareholders, c'est-à-dire l'entreprise est dans un environnement avec des fournisseurs, des États, des régions, des salariés, bien sûr, excusez-moi de citer si tard les salariés. Et donc, parce qu'elle est acceptée par la société depuis la chute du communisme, elle est en porosité avec la société. Donc il faut qu'elle tienne compte de la société. Après, c'est à elle de choisir quelle stratégie elle fait. Et je dirais, j'appellerais dans le sillage de ce que disait Sylvie Matelli, les entreprises doivent prendre acte de la nouvelle mondialisation qui est en cours. La nouvelle mondialisation veut dire il y a des États agresseurs, mais aussi quelque part on est rentré dans une mondialisation. Je ne crois pas à la démondialisation et je ne crois pas autour du protectionnisme. Les interdépendances sont trop fortes et les pays qui prendraient le risque de se découpler de la mondialisation, le premier d'entre eux, c'est la Chine. Et on voit déjà les conséquences en ce moment. Prennent le risque de voir l'efficacité de leurs entreprises baisser parce que le jeu concurrentiel s'exerce moins fortement. Donc quelque part, il y aura toujours de l'échange, il y aura toujours de la globalisation. Mais elle va se faire dans des rapports de force mutuels. Et là, je dirais, c'est à une entreprise de dire, si je m'installe en Russie, si je quitte la Russie, ou si je reste en Chine, ou si je vais ailleurs, c'est à moi de peser mes risques. C'est-à-dire, l'entreprise, elle a des objectifs d'abord financiers. C'est à elle de dire, je vais dans tel pays, je prends un risque. Je l'assume ou je ne l'assume pas. Parmi ce risque, il y a le risque financier, aussi le risque réputationnel.
Oui,
alors, moi, je voudrais aussi citer, c'est toujours très bien de citer les autres, mais citons les nôtres. Le premier pays qui est entré dans cette voie, c'est les États-Unis, qui ont renationalisé la mondialisation, notamment sur les lois anticorruption, à partir des années 2000. On pourrait quand même citer l'exemple de banques françaises comme BNP Paribas, qui ont été très lourdement sanctionnées, plusieurs milliards d'euros, notamment pour avoir commercé avec des pays comme le Soudan, pays génocidaire, vous voyez, au Darfour. Bon, à un moment donné, je crois que les entreprises sont confrontées à dire, où est ma responsabilité, où est mon risque? Et je dirais, elles sont invitées à faire deux choses. À mon avis, elles seront invitées à faire plusieurs choses. D'abord, dans la RSE, il y a le risque environnemental. C'est aussi à elles de déployer des stratégies. Il ne suffit pas d'acheter du gaz américain, mais se poser la question, dans mes approvisionnements, est-ce que je pourrais construire de façon rentable et efficace des approvisionnements vertueux en harmonie avec l'environnement et le basculement climatique? Première question. La deuxième chose, c'est dire, est-ce qu'il vaut mieux que je ne travaille pas avec des pays avec qui je partage les mêmes valeurs? Et ce n'est pas seulement une question de valeur, c'est aussi une question de droit, d'état de droit, droit des affaires. Quand on va en Russie ou dans d'autres pays... moi, j'admire les Français qui y restent, qui font semblant, avec un certain opportunisme. Enfin, on peut penser que le droit des affaires est clair et transparent en Russie, alors qu'on a vu des entreprises qui ont vu leurs affaires confisquées, des avocats mourir en prison. Donc, je dirais, là, de ce point de vue-là, aux entreprises dans le monde, dans le bloc occidental, hein, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, de dire, voilà, moi, je privilégie des pays avec qui j'ai des rapports conflictuels de concurrence, les États-Unis, d'autres, mais il y a un droit, il y a le droit des affaires. Et la dernière chose, c'est je dirais, le côté inclusif. On ne peut pas, l'Occident, les entreprises occidentales, le monde occidental, les États occidentaux ne peuvent pas se contenter de dire on est dans le bloc de la démocratie et des valeurs démocratiques, des droits de l'homme. Face à nous, on a le bloc, comme à une époque, l'Empire du Mal, le bloc du mal qui serait la Russie et la Chine. Et là, on y va, nouvelle guerre froide. Je crois que c'est aux entreprises occidentales, en particulier dans leur stratégie, d'inclure les pays émergents, qui souffrent beaucoup en ce moment. Il y a des pays, il y a des nouveaux marchés, alors évidemment... La Russie, comme l'a dit Sylvie, pose la question, on a un morceau de la mondialisation, de la globalisation, qui pose comment les entreprises sont confrontées au départ, etc. Mais il y a d'autres continents que l'espace russe, il y a toute l'Afrique. Je dirais aux entreprises occidentales, allez en Afrique, allez en Amérique du Sud, ou allez bien sûr en Inde ou dans ces pays-là. Je crois qu'il ne faut pas laisser les BRICS et les pays émergents entre les mains de rapports de force, d'États ou de blocs qui ne partagent pas notre conception du marché, de la démocratie libérale et du droit des affaires.
Votre commentaire, Patrick Dumière, sur ce rapport de force évoqué par Félix Torres?
Alors, tout ça résume, je pense, très bien. L'État particulièrement... aujourd'hui ambigu, qui n'est pas bien résolu de la situation dans laquelle on se trouve, de cette tension entre des entreprises auxquelles on demande d'aller au bout de leur nouveau positionnement d'acteurs dans la société mondiale au regard de la planète, dont elles font un argument de vente, et puis de la recherche par les États, entre guillemets, d'une économie responsable dont a parlé très bien Sylvie. Alors, on est vraiment à mi-chemin. Les États n'assument pas aujourd'hui, comme l'a rappelé Sylvie Matelli, les engagements qu'ils ont pris dans les organisations internationales. Le texte OCDE aujourd'hui, qui est un texte qui est issu des questions de l'embargo sur l'apartheid et qui avait été fait suite à l'intervention d'Haïti au Chili, etc. Donc, le texte aujourd'hui de l'OCDE sur les principes directeurs des multinationales, normalement, il permet de régler tout ça. C'est-à-dire que les États sont chargés de le faire appliquer. L'État français peut dire à Auchan, je vous convoque au point de contact national et je vous demande de rendre compte de la manière dont vous n'êtes pas complice aujourd'hui de la Russie. Bon, il peut le faire, il devrait le faire. Alors, il le laisse un peu très lâchement à des ONG, type Sherpa, qui, dans des conditions très difficiles juridiquement, sont obligés de se rendre éligibles devant les tribunaux français, de arriver à nourrir un dossier, comme ils l'ont fait pour Lafarge en Syrie, où là, le jugement va arriver bientôt, et où la question de la complicité de Lafarge dans le financement du terrorisme est sur la table de façon très très forte. Et des situations comme celle-là, d'hypocrisie et de responsabilité non assumée par les États qui ont signé vraiment des engagements, ne se fait pas. Donc ça, c'est un problème et sur lequel je pense que l'Union européenne aujourd'hui, à travers le texte notamment, qui est un texte aujourd'hui d'influence extraterritoriale sur la vigilance en termes de droits humains et droits sociaux et de respect de l'accord de Paris à l'égard de l'ensemble des fournisseurs d'une entreprise opérant en Europe, celui-là, il va changer les choses probablement, mais encore faut-il faire en sorte d'appliquer tout ça. Donc ça, c'est un premier point. Quant aux entreprises, qu'elles soient des mines cotées en bourse ou des grands distributeurs, elles prennent des engagements et ces engagements les engagent, c'est une formule que les juges retiennent généralement, et de dire « bah écoutez, voilà, vous dites que vous voulez être responsable, ceci, cela, eh bien, démontrez que vous le faites vraiment. Mmh. » Donc, on va sortir, je pense, par le haut, je l'espère, de cette situation très hypocrite de la part des États, très ambiguë de la part des entreprises d'aujourd'hui, à partir du moment où on considère que, ce qui n'est pas nouveau dans l'histoire, hein, que faire des affaires, bah, c'est un jeu qui a un rapport au monde particulier. Et comme ce rapport au monde, aujourd'hui, sous la pression de notre société, il est très risqué du point de vue des enjeux climatiques, des enjeux de biodiversité, des enjeux aujourd'hui aussi de bonne gouvernance et autres, eh bien, je pense que l'entreprise, elle est prise dans l'engrenage de sa propre volonté d'être une marque responsable et de faire en sorte qu'il y ait une prime pour les marques responsables, mais qui, évidemment, à certains moments, va faire en sorte que bah, ça peut coûter. Donc voilà, on l'apprend. Le cas le plus intéressant, c'est Renault. Hein. L'État français a quand même poussé, puisqu'il a 15%, et pouvait-il laisser Renault ne pas réagir fortement? Non. Par ailleurs, Renault avait le risque aujourd'hui de boycott. Donc voilà, maintenant le sujet n'est pas réglé complètement, mais Renault en plus a un président qui déclare qu'elle a une raison d'être qui l'amène à vouloir soutenir le développement mondial, etc. Donc vous voyez bien à quel point ces engrenages-là, aujourd'hui, ils nous obligent à avancer, ils obligent les États à être plus rigoureux, ils obligent les entreprises à assumer leurs engagements. Et il nous oblige, nous, démocratie, à savoir quelle est la place du business dans la promotion de nos valeurs et de nos systèmes politiques.
Alors, on en arrive à la conclusion. Donc, on a bien compris, situation difficile pour les entreprises internationales, pour les États également. Alors, avec cette question, finalement, de fracturation du monde et de l'économie mondiale, en tout cas, en guise de conclusion, question à chacun. Alors, je sais que Félix Torres souhaitait réagir à ce que a dit à l'instant Patrick Dumière, mais finalement, quel est ce nouveau paysage politique économique qui est en cours d'émergence aujourd'hui dans le monde, ce changement de paradigme évoqué par chacun, Sylvie Matelli et Félix Torres?
À nouvelle globalisation, il faut une nouvelle géopolitique et il faut une nouvelle stratégie. Aux entreprises de prendre leurs risques, en toute connaissance de cause, et elles savent le faire. Mais aussi aux États de prendre leurs responsabilités, et je prolongerai ce que disait Patrick Dumière, il faut savoir que la France, les autorités françaises, ont conseillé aux entreprises française en Russie, au début du conflit, de rester en Russie et de faire semblant. Donc je dirais attention pour notre pays de ne pas sombrer dans la géopolitique à la papa, à l'ancienne, en disant je suis entre les deux blocs, et nous ressortir les mannes d'une politique, je dirais, qui serait neutre dans une Europe qui irait du Finistère à l'Oural ou à Vladivostok. Donc je dirais à chacun de prendre ses responsabilités. Les entreprises seront obligées de le faire pour survivre et pour continuer à se développer. Elles ont d'autres champs d'expansion que la Russie ou le bloc Chine-Russie. Mais c'est aussi aux États, dont le nôtre et dont l'Europe au sens large, de poser clairement les règles et de poser clairement leurs actions dans le nouveau monde qui est le nôtre aujourd'hui.
En tout cas, s'il y a un pays en Europe qui va être particulièrement impacté dans ce domaine, c'est probablement l'Allemagne, avec des réorientations alors complètes à faire. Sylvie Matelli, en guise de conclusion, 30 secondes.
30 secondes. Alors peut-être un sujet sur le qu'on n'a pas évoqué et qui est très important. Les entreprises, elles se trouvent aussi confrontées à ce citoyen consommateur qui, suivant qu'il soit citoyen ou suivant qu'il soit consommateur, a des attentes très différentes, a des exigences d'un côté et puis des exigences en termes de valeurs et de respect des valeurs, et des exigences en termes de prix et de consommation. Et ça, ça va être un vrai défi, pas seulement pour nos gouvernements, pour nos États et pour nos entreprises, mais aussi de se questionner sur nos modes de consommation. Et ça rejoint l'Allemagne et les défis auxquels fait face l'Allemagne aujourd'hui.
Merci Sylvie Matelli. Je rappelle que vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS. Félix Torres, historien, chercheur à Sorbonne Université, directeur fondateur de Public Histoire et auteur de « Que peut l'entreprise ?» aux éditions Humaine 6, et Patrick Dumière, chargé d'enseignement à l'IRIS et président de la commission de normalisation RSE responsabilité sociale des entreprises. Je rappelle donc la parution du dernier numéro de la revue internationale et stratégique sous le titre Géopolitique et entreprises. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À très bientôt.